Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis France Gascon, je suis directrice de la programmation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir M. Gilles Cantagrel, qui prononcera une conférence intitulée « Mozart, de lumière et de savoir ». Présenté dans le cadre du programme des grandes conférences de Bibliothèque et Archives nationales, la conférence de M. Cantagrel va traiter de la participation de Mozart à l'évolution des idées véhiculées durant le siècle des Lumières. Avant cette conférence, permettez-moi de vous dire quelques mots sur notre conférencier, même si je soupçonne que la plupart d'entre vous avez entendu parler de M. Cantagrel ou peut-être le connaissiez même bien déjà. Alors, musicologue de renommée internationale et ancien directeur de France Musique, M. Cantagrel a publié de nombreux ouvrages sur Jean-Sébastien Bach et Mozart, dont en 2005, Mozart, Don Giovanni, le manuscrit, un trésor de la BNF, et les plus beaux manuscrits de Mozart. M. Cantagrel est aussi l'auteur de nombreux articles sur le sujet, parus au fil des ans dans plusieurs revues, dictionnaires et encyclopédies, comme par exemple le Larousse de la musique, Musique, une encyclopédie pour le 21e siècle et l'Encyclopédia Universalis. Tout récemment, très très récemment je pense même, l'Académie française des beaux-arts a décerné le prix René Duménil à M. Cantagrel pour son ouvrage sur les plus beaux manuscrits de Mozart.
Hier, ça s'est passé.
Je me doutais que c'était récent.
C'est très récent.
Alors, toutes nos félicitations. Ce prix vous sera remis, on nous a dit, en séance solennelle sous la coupole à l'Institut de France le 22 novembre prochain. Alors, nous sommes très... Avant de céder la parole à M. Cantagrel, j'en profite pour remercier Mme Pascale Lamy, qui est l'âme de cette tournée qu'effectue M. Cantagrel au Québec, tournée à laquelle nous sommes ravis d'avoir, été inclus. Une période de questions est prévue à la fin de cette conférence-présentation. Nous souhaitons à tous une excellente soirée et cédons maintenant la parole à M. Gilles Cantagrel.
Grand merci, je dois dire que c'est moi-même qui suis à la fois heureux, toujours quand je viens au Québec, toujours heureux bien sûr, et honoré d'intervenir dans ce lieu exceptionnel où nous nous retrouvons ce soir, exceptionnel de qualité, de convivialité, et qui est désormais un modèle, je pense, pour de nombreuses bibliothèques nationales de par le monde. J'ai eu le bonheur de visiter hier, j'étais très admiratif. Ce sujet de causerie peut paraître un petit peu étrange, lumière, savoir, à propos de Mozart, du divin Mozart, de l'auteur de symphonies, de concertos, d'opéras, que viennent faire ces idées un peu philosophiques. C'est la question que l'on peut tout de suite se poser. Et la réponse, finalement, n'est pas si compliquée. Je pense que, comme tous les très grands génies de l'humanité, Mozart balance entre l'universel et le temporel. Quelque chose de son génie, comme celui de Platon, comme celui de Newton, comme celui de Léonard de Vinci, appartient à l'universel, en dehors de toute époque. Et la philosophie de Socrate, par Platon, nous parle encore aujourd'hui. Indépendamment du temps terrestre dans lequel ces personnes ont vécu. Mais il y a également un aspect temporel qui peut éventuellement aider à percevoir un certain nombre d'éléments fondateurs ou catalyseurs d'une pensée, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit musicale, picturale, que sais-je. Et le créateur est un homme profondément engagé dans son temps. Et on ne peut pas non plus ignorer les circonstances de son temps. Et pour Mozart, c'est extrêmement frappant, car son activité créatrice se déroule sur une trentaine d'années, puisqu'il était si précoce et hélas qu'il est mort si tôt, mais en gros dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et nous savons tous à quel point cette période est importante dans l'histoire de l'esprit humain. C'est le moment, et de la société, c'est le moment où l'on tend à se dégager d'anciens schémas de féodalité, notamment, de classe sociale très hiérarchisée, et pour atteindre de nouvelles idées, de nouvelles notions dont un certain nombre de philosophes vont être les porteurs. On commence avec Montesquieu en France, par exemple, et puis Diderot, et Voltaire, et combien d'autres, et c'est vrai également en Allemagne, en Grande-Bretagne. Toutes ces idées auxquelles Mozart va être totalement perméable, desquelles il sera informé. On a peine à croire qu'un compositeur de musique, entre les instruments de l'orchestre et les chanteurs sur la scène de l'opéra, puisse aussi être informé et même engagé dans un débat d'idées. Or, ça a été le cas de tous, de Beethoven au combien, par exemple, de Mozart à l'évidence, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On ne peut pas dire que Jean-Sébastien Bach ait été autant impliqué dans l'évolution des idées que le sera à la génération, deux générations après, Wolfgang Amadeus Mozart. Et ces idées, ce sont celles que du siècle des Lumières, ce que les Anglais appellent, pardonnez mon mauvais accent, the Age of the Enlightenment, que les Allemands appellent l'Aufklärung, ce rationalisme, cette lutte acharnée, philosophique, contre les idées reçues, et notamment des idées théologiques qui structuraient une partie de la pensée et de la société, ces idées que va s'employer à véhiculer un mouvement considérable qui va traverser l'Europe et qui est celui de la franc-maçonnerie. Et on ne peut pas faire l'économie de cette notion quand on aborde Mozart, sa pensée et son œuvre. Cette franc-maçonnerie qui est apparue au XVIIIe siècle en Angleterre d'abord, qui se développe en France et qui atteint les terres germaniques, qui va être d'ailleurs interdite en Allemagne. Je précise tout de suite, en une brève parenthèse, que Mozart n'a jamais été autrichien, contrairement à ce qu'on dit dans les dictionnaires ou ailleurs, il était allemand, fier de l'être, pour une raison très simple, c'est que natif de Salzbourg, Salzbourg relevait d'un électorat, le prince archevêque de Salzbourg était l'un des électeurs, une des 350 unités territoriales qui composaient l'Empire d'Allemagne, l'ancien Saint-Empire romain germanique, que l'empereur Habsbourg, qui était à Vienne, était empereur d'Allemagne, et non pas empereur d'Autriche, même s'il était aussi après empereur d'Autriche, et que Salzbourg relevait plutôt de la Bavière, il se reconnaissait, il l'a écrit comme bavarois et pas du tout comme autrichien. Il y a en tout cas une raison très précise, historique, c'est que Salzbourg a été rattaché à l'Autriche en 1816, après le congrès de Vienne, et donc 25 ans exactement après la mort de Mozart. Les Autrichiens sont très heureux de récupérer Mozart, on ne peut pas leur en vouloir, mais lui se revendiquait comme allemand. Donc je dis bien compositeur allemand. Et c'est pourquoi j'évoque cette existence de la franc-maçonnerie dans les terres allemandes. Alors, à Vienne en particulier, la franc-maçonnerie avait été très mal vue par l'impératrice Marie-Thérèse, parce que son mari passait beaucoup de temps dans les loges à discuter, à refaire le monde, et ça lui déplaisait, elle faisait encore partie de ses souverains autoritaires, que ne sera pas du tout son fils Joseph II, qui a été, comme vous savez, comme nous savons tous, l'empereur régnant du vivant de Mozart, Joseph II, qui était un souverain artiste, éclairé et plutôt débonnaire, finalement, qui non seulement a rouvert les loges, a redonné l'autorisation aux loges de se réunir et de fonctionner, mais au-delà même a contribué à réorganiser la maçonnerie dans son pays. Laquelle maçonnerie, d'ailleurs, n'était pas du tout en opposition avec l'Église catholique romaine. N'étant pas maçon moi-même, je me suis tout de même informé, et je sais, nous savons, qu'en Europe en tout cas, de très nombreuses obédiences maçonniques sont opposées à l'Église catholique, sont volontairement athées, Et ce n'était pas du tout le cas en Allemagne, et en tout cas à Vienne, au moment où les 10 années que Mozart passe à Vienne sous le règne de Joseph II. Tout au contraire, la maçonnerie, et nous allons le voir, a permis à Mozart d'exalter et de mettre en application sa vie chrétienne de catholique fervent. C'était un catholique engagé, très fervent, qui a même connu dans sa jeunesse des crises de mysticisme, et on pourrait s'étonner qu'il fût maçon, mais tout au contraire, ça a été pour lui une façon de développer dans la pratique d'une convivialité fraternelle les idéaux chrétiens de ce catholique convaincu. Ces idées nouvelles, c'est donc la franc-maçonnerie qui va les diffuser. Et je remarque que dès sa jeunesse, Mozart a pour employeur à Salzbourg, il a eu plusieurs archevêques, mais le dernier en date, Colloredo, de très mauvaise réputation, parce qu'il y a eu une brouille entre les deux. J'ouvre une nouvelle parenthèse historique, celle-ci. Mozart était tout le temps parti. Il était musicien à la cour du prince archevêque de Salzbourg, mais il était tout le temps parti en tournée. Il allait composer des opéras à Milan. À juste titre, l'archevêque a dit « Mais écoutez, je vous paye, c'est pour que vous soyez à mon service. » Ce qui est un réflexe bien humain. Et Mozart ne l'entendait pas vraiment comme ça. Il y a eu une brouille entre eux qui s'est terminée, comme nous savons, par cette liberté que Mozart a conquise en 1781, en quittant tout employeur et en se mettant à son compte, comme on dirait en termes d'aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, un compositeur décide de ne pas devoir sa subsistance à une cour ou à une ville, une église, mais d'être indépendant. Un grand exercice de la liberté qui va se retrouver tout le temps dans ses opéras. Je vais y venir dans un instant. Eh bien, cet archevêque Colloredo était un curieux religieux puisque il souhaitait que les grands messes à Salzbourg ne durent pas plus de 3/4 d'heure. Donc les grands messes, comme on trouvait à Vienne, qui duraient 1h30, 2h, voire 3h, il n'en voulait pas, ce qui est assez curieux pour un archevêque. Et d'autre part, il faut savoir que cet homme était tout à fait au courant des idées nouvelles et qu'il était abonné, il recevait chez lui, dès la parution, les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Alors, un archevêque voltairien, ça ne court pas les rues, en tout cas pas à cette époque-là. Eh bien, il faut relativiser par conséquent l'image d'intolérance que l'on a quand on évoque Colloredo. Colloredo était simplement un employeur qui voulait que ses employés travaillent correctement pour lui. Et quel que soit le génie de Mozart, il voulait quand même qu'il soit là, à la messe, et qu'il joue de l'orgue et qu'il dirige des œuvres. Bref, j'évoquais la franc-maçonnerie qui a eu, pour Mozart, un rôle absolument décisif. Dès son enfance, il est au contact, par sa propre famille, par son propre père, avec des milieux maçonniques, à Salzbourg déjà. Puis, quand il voyage, ses idées se répandaient de plus en plus, et même un homme comme Léopold Mozart, qui est quand même un homme, nous dirions, de l'Ancien Régime, eh bien, était très perméable à ces idées nouvelles. Et ils vont avoir, les Mozart, un certain nombre d'amis francs-maçons. Et petit à petit, ces idées qui circulent, ces idées dont il entend parler par les personnes qu'il fréquente, trouvent en lui un écho extraordinaire, vont éveiller en lui, développer en lui des idées qui sont profondément ancrées depuis sa plus tendre enfance et qui vont se développer au point que, arrivé à Vienne, il va entrer dans la franc-maçonnerie et être initié à la fin de 1784. Et il le raconte dans des lettres, il y a des choses qu'il ne peut pas encore dire, parce qu'il est en cours d'initiation, mais on sait comment, à sa femme, Constance, il parle de ces mystères auxquels il est maintenant convié. Il va devenir compagnon dès le début de l'année 1785. C'est essentiel pour lui. Et à tel point que, à peine est-il entré dans la maçonnerie qu'il veut faire initier son grand ami, le plus grand compositeur au monde à cette époque, Joseph Haydn, qui a l'âge de son père. Mais il veut le faire initier et il le fait initier dans sa propre loge, là où il est lui-même déjà compagnon, puis rapidement maître dans la loge. Et il y a un événement qui, moi, me touche beaucoup. Cette même année 1785, le père de Mozart, Léopold, vient à Vienne voir son fils. C'est la seule fois qu'il fera le voyage. D'ailleurs, il meurt 2 ans après. Il est veuf, sa femme est morte à Paris au cours de ce voyage désastreux que Wolfgang a fait à l'âge de 22 ans. Il est veuf et il vient avec un ami, un vieil ami de Salzbourg, et ils arrivent à Vienne au mois de février. Il y a 15 cm de neige, il fait un froid de gueux, et il n'a pas le temps même de venir se poser et de déposer sa malle chez son fils, que déjà il doit aller au concert, car ce soir-là, il y a académie. Vous savez qu'il n'y avait pas d'orchestre constitué en dehors des cours, qu'il n'y avait pas de salle de concert et que Mozart, comme tous les autres, quand il voulait donner un concert de ses œuvres, il devait engager des musiciens, être le producteur de ses concerts, louer une salle dans, là où on pouvait, dans un manège, dans une auberge, que sais-je. Et ce soir-là, Mozart donne un concert et un concert par abonnement, un des abonnements qui avait un succès énorme. Mozart est très connu, il est très riche à ce moment-là, et son père est tout à fait étonné. Il vient de sa petite ville de Salzbourg, une ville, brave ville de braves marchands, mais avec l'esprit un petit peu borné, il faut bien le reconnaître. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Mozart a détesté Salzbourg toute sa vie, qui ne lui rend pas, évidemment, on le comprend. Et le père Mozart arrive et doit se précipiter à la Mehlgrube, en plein cœur de Vienne. Ce soir-là, il y a concert. Et il est stupéfait de voir qu'il y a un auditoire de 300, 400 personnes, une grande salle, c'est plein, et qu'il y a tous les princes et les comtes et les barons de l'aristocratie viennoise. Et les Viennois, Vienne étant à cette époque au centre de l'Europe, quand on dit l'aristocratie viennoise, c'est-à-dire qu'il y avait quelques Allemands, il y avait surtout des Russes, des Hongrois, des Polonais et des Tchèques. Et il y a donc le gratin, le tout Vienne qui est là, c'est-à-dire toute l'aristocratie de l'Europe centrale, et Mozart dirige, devinez quoi, le 20e concerto pour piano, le concerto en ré mineur, qui peut être le chef-d'œuvre absolu de sa musique instrumentale. Et Léopold Mozart, à peine arrivé à Vienne, entend cette œuvre. Il écrit ensuite à sa fille que c'est un chef-d'œuvre absolument extraordinaire. Et il voit tout Vienne qui acclame son fils. C'est un choc. Il va ensuite demeurer chez son fils, il va rester plusieurs semaines, même plusieurs mois. Le lendemain, il y a des aristocrates qui viennent faire de la musique à l'appartement de Wolfgang Mozart, et il leur fait jouer, Wolfgang, les nouveaux quatuors qu'il vient d'achever et qu'il va dédier à son grand ami, son père en musique, son frère en musique, Joseph Haydn. Et là, il y a présent dans l'appartement de Mozart, pendant qu'ils jouent tous les quatre, Mozart à l'alto, bien sûr, son instrument de prédilection, il y a Joseph Haydn en personne et son excellent collègue Léopold Mozart. Et c'est là que Joseph Haydn prononce la phrase célèbre « Monsieur, je vous le dis sur ma conscience, votre fils est le plus grand compositeur qui existe aujourd'hui, que je connaisse ou de réputation. » Eh bien, il y a un choc extraordinaire, et la préoccupation première de Wolfgang Mozart va être de faire initier son père à la maçonnerie. Ce qui va être fait rapidement, il va devenir compagnon, il aura même le temps de franchir le grade supérieur, il sera maître, le père Léopold Mozart. Et en cela, je vois que le fils devient le père de son père à la loge. Il y a un retournement de situation, un retournement de valeur, dirais-je, de valeur affective, qui renforce le lien entre le père et le fils, sur lequel on a beaucoup glosé, on a souvent fait du père de Mozart une espèce de montreur d'ours qui a promené son petit garçon partout en Europe pour gagner de l'argent, une espèce de Thénardier musical, pour employer le personnage des Misérables de Victor Hugo, eh bien, il n'avait rien de misérable. C'était un homme très remarquable, un érudit qui a tout appris à son fils, qui n'est jamais allé 5 minutes sur les bancs de l'école. Sa culture, sa très grande culture, Wolfgang Mozart, son ouverture d'esprit aux idées nouvelles, précisément, il tient cela de son père. Et le voilà qui devient le père de son père en maçonnerie, ce qui est extrêmement touchant, bien sûr. Et les maçons vont avoir un rôle essentiel dans la vie de Mozart de ces dernières années. Il va fréquenter d'autres personnes, il va se rapprocher de personnes qu'il connaissait déjà, mais créer un lien d'intimité avec certains. Il aura de grands amis, des frères de loge notamment, qui vont le secourir quand après l'échec de Don Giovanni, en 1788, de la représentation viennoise, la création est à Prague avec un triomphe, comme on sait, mais après l'échec de Don Giovanni en mai 88 à Prague, Mozart, qui est délaissé par ce public assez frivole et versatile de Vienne, va être secouru par diverses personnes, notamment ses frères de loge. Et quand sa femme Constance est souffrante, qu'elle doit aller faire des cures à Baden, charmante petite ville, je vous conseille d'aller voir à l'ouest de Vienne, qui est restée une bourgade adorable, elle doit aller faire des cures d'eau, eh bien, ça lui coûte très cher à Mozart. Et donc, il lui faut de l'argent au moment même où ses commanditaires, ses patrons, ses protecteurs se dérobent. Et donc, ce sont les amis, les frères de loge qui vont l'aider financièrement. Et quand Mozart meurt, les frères de loge épongent la dette. On n'en parle plus. Ils abandonnent toute créance. Et il y a là, en plus de l'idéal fraternel qui est celui de Mozart, que l'adhésion à la loge a développé, il y a là, en plus, un secours très important dans sa vie. Et d'autre part, il y a une incidence considérable dans sa propre musique, car après la révélation de la musique de Jean-Sébastien Bach, qui a révélé à Mozart son aspiration à la gravité, au sérieux en toute chose, la maçonnerie va lui donner un épanouissement fraternel. Écoutez la dernière œuvre symphonique ou concertante qu'il ait écrite, le concerto pour clarinette, 2 mois avant de mourir, et la clarinette chante d'une façon tellement bouleversante cette affection, cette humanité, cette fraternité des êtres les uns pour les autres. Là, on a quelque chose du plus pur Mozart et qui a été révélé, et ça existait en lui, bien entendu, mais qui a été révélé, exalté par les idéaux maçonniques. Quels sont ces idéaux? Ils sont évidemment multiples, je ne vais pas entrer dans le détail. Je dirais qu'il y a d'abord cette idée essentielle de la dignité de l'être humain. Il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'êtres supérieurs et d'autres inférieurs, il n'y a pas de classe dominante et de classe dominée, ou du moins il ne devrait pas y avoir. Tout le monde, tout être humain est un être unique, est un être non recommençable, est un être unique, et il faut le respecter en tant que tel. Cette flamme de vie, cette flamme d'humanité qu'il y a entre chacun, il ne peut pas y avoir d'esclavage. Tous les êtres devraient être égaux. C'est d'ailleurs ce que va chanter, entre autres, l'Ode à la joie de Beethoven sur un poème de Schiller qui date de cette époque-là, qui est antérieur à la symphonie. Et de ce fait, on va lutter contre l'absolutisme, contre la féodalité, non pas pour casser l'ordre du monde, mais pour tendre vers l'exercice du pouvoir éclairé. C'est à cette époque qu'on parle du despotisme éclairé. Les souverains qui règnent et qui gouvernent leur peuple, non pas dans leur intérêt à eux, mais dans l'intérêt des sujets, au nom des idées nouvelles. On dit bien éclairés. Ils sont éclairés parce que, au sens le plus courant, bon, ils ont des idées, de belles idées, mais on retrouve cette idée de lumière. Ils sont les détenteurs des nouvelles idées, des lumières, ces despotes éclairés. Eh bien, tout ça, on le sait, ce seront les idéaux de la Révolution française. C'est-à-dire, rappelez-vous, l'article 1, la première ligne de la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est complètement révolutionnaire philosophiquement parlant, socialement parlant. Et d'autre part, vous savez que la devise de la de la République française aujourd'hui, mais qui remonte à 89, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est l'émanation directe de tout ce courant de pensée qui monte à mesure dans tout le XVIIIe siècle et qui va aboutir là. Avec, évidemment, des chemins de traverse. Tout n'est pas idyllique. Il y a quelques despotes éclairés. Joseph II en est un. Frédéric II de Prusse, à sa façon. Catherine de Russie, la grande Catherine, aussi. Mais Dieu sait s'il y a encore un exercice terrible du pouvoir, autoritaire, autocratique. Les choses ont explosé en 89 en France. Et il a été facile de dire, sous la plume de certains musicologues, dont certains que je connais bien, que Mozart était un révolutionnaire. Il aurait eu bien du mal à l'être, parce que quand il est mort en 91, la révolution date de 89, et c'est déjà, sur le plan chronologique, un petit peu difficile d'en faire le porte-parole des idées révolutionnaires. Ce qui est évident, en revanche, c'est qu'il est complètement imprégné de ces idées nouvelles, celles qui vont précisément aboutir dans le sang et dans la terreur en 93, en France, à la révolution que nous connaissons, mais qui vont surtout aboutir à un bouleversement complet des idées au fil des décennies suivantes. Alors, je dis qu'il n'est pas un révolutionnaire, au contraire, il n'est pas un contestataire. Et de ces idées nouvelles, il veut faire une création. Il ne veut pas démolir, il ne veut pas faire du passé table rase, ce n'est pas son idée, ce n'est pas son propos. Et quand il traite, par exemple, des noces de Figaro, le mariage de Figaro de Beaumarchais est une œuvre terrible. Alors elle, pré-révolutionnaire, quand Figaro dit au comte Almaviva, vous les aristocrates, vous vous êtes simplement donné la peine de naître. Ça, c'est une violence extrême. C'est difficile à supporter. Il n'en aurait pas été question, de toute façon, à Vienne, où la censure veillait. Et d'ailleurs, c'était une pièce qui était interdite. Il a fallu toute la diplomatie du librettiste d'Aponte et de Mozart lui-même pour faire comprendre à Joseph II que, moyennant quelques aménagements, la pièce serait représentable. Mais il a fallu y aller doucement. Mais de toute façon, ce n'est pas le propos de Mozart. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus créateur, c'est l'expression idéale de, je dirais, d'une exaltation de la dignité de l'être humain. Et ça, c'est dans toute l'œuvre d'opéra des dix grandes années de Mozart. Cette quête d'un absolu qui ça va s'exprimer dans la beauté, dans la pure beauté esthétique, je dirais, de ses œuvres, mais également, c'est un absolu d'ordre humain. Et ça, les livrets de ses opéras, et même plus encore, la musique de ses opéras, en porte témoignage. J'entends déjà une objection. Oui, mais les livrets, ce n'est pas lui qui les a écrits. Donc, il reprend des livrets qui existent et il fait avec ce qu'on lui donne. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, car il a travaillé au livret, il a choisi ses livrets, et vous savez, dans la chronologie mozartienne, il y a un grand trou de 4 années entre l'enlèvement au sérail en 1782 et l'opéra suivant, Les Noces de Figaro, en 1786. 4 années pendant lesquelles il cherche un livret, précisément. À son époque, M. Salieri, M. Bertati, M. Gazzanica et autres, on leur commande des opéras, on leur donne, tenez, voilà un livret, il me faut l'opéra dans 3 semaines. Et ils écrivent un opéra, pas Mozart. Mozart prendra le temps qu'il faut pour écrire sa musique, mais d'abord le temps qu'il faut pour choisir le livret. Et il y a une très belle lettre à son père, dans laquelle il dit, depuis un an à peu près, j'ai déjà lu plus de 100 livrets d'opéra qu'on m'a proposés, et il n'y en a aucun de bon. On me propose des rafistolages avec des livrets qui existent déjà en me demandant ce que j'en pense, et je me suis aperçu que rien ne vaut un livret original, bien pensé, bien écrit. Voilà donc un homme qui n'est pas du tout le compositeur un petit peu naïf à qui on donne un livret et qui écrit. Critique que l'on a adressée également à Schubert. On dit, oh, brave Schubert, il était nigaud, il n'avait pas beaucoup de goût littéraire, et bon, il écrivait des lieders comme ça, des chansons, à tour de bras, quelquefois cinq dans la même journée. Oui, c'est quand même lui qui a écrit le plus grand nombre de musiques sur des poèmes de Goethe, tout simplement. Alors, je veux bien qu'il n'ait pas de goût. C'est lui qui a découvert un jeune poète qui s'appelait Heinrich Heine. Il a été le premier à mettre en musique un poète qui n'avait que 28 ans et qui était complètement inconnu, qui va être considéré comme le plus grand poète romantique allemand. Eh bien, ces musiciens, c'est vrai pour Mozart également, Mozart a une intuition, une certitude dans le choix de ses poèmes, de ses livrets, et il a même parfois, même, il s'est laissé abuser, il a commencé un opéra et il a arrêté tout de suite. Quelquefois, on a un air, on a une petite scène, et il arrête. Il sait, non, ça ne va pas aller, ça n'est pas ce qu'il cherche. J'ajoute qu'en plus, il a certainement retouché lui-même, dicté des modifications à ses librettistes. Il a eu la chance, j'en dirai un mot tout à l'heure, de rencontrer le merveilleux librettiste Lorenzo da Ponte, personnage extravagant, mais qui a composé peut-être les trois plus beaux livrets de toute l'histoire de l'art lyrique, avec Don Giovanni, Noce de Figaro d'abord, Don Giovanni et Così fan tutte. Mais je l'imagine très bien également sur le dos de son abate da Ponte, venant lui dire « Non, ça, je voudrais quelque chose de plus court, plus long, mieux rythmé, pas en vers de 8 pieds, mais en vers de 6 pieds. » Ça, c'est le musicien qui parle. Et le philosophe Mozart lui dit « Non, cette idée-là, je n'en veux pas, elle ne m'intéresse pas. Et en plus, je ne peux pas la mettre en scène, ce n'est pas dramatiquement très bon. » Je vais ajouter que l'avant-dernier opéra qu'il écrit, « La Clémence de Titus », est une œuvre de commande. Et là, il a pris le livret qu'on lui a demandé. C'était pour le couronnement du nouvel empereur, Léopold, et il n'avait pas le choix, il avait besoin d'argent, il a fallu qu'il fasse cette commande très vite, il a pris le livret qu'on lui donnait. Il n'avait pas eu de marge de manœuvre. Mais au même moment, il écrit La Flûte enchantée, et pour vous dire mon intime conviction, je pense qu'il est en partie l'auteur du livret de La Flûte enchantée. Vous savez que c'est une commande d'un frère de loge, bien entendu, Emmanuel Schikaneder, qui avait une troupe théâtrale, qui était un comédien, un acteur, et qui avait une petite troupe théâtrale dans un théâtre de Faubourg, presque à la campagne, à Vienne, Auf der Wieden, et qui lui a commandé cet ouvrage. Petit ouvrage féerique, que même les enfants pourront venir voir. En allemand, on disait « eine Operette ». C'est pas tout à fait opérette au sens moderne du terme, mais un ouvrage plaisant, dont il va faire complètement autre chose, parce que Schikaneder est un frère de loge, et surtout, ils sont allés tous les deux demander des conseils au grand maître de la loge, M. Ignaz von Born, qui était un égyptologue, un grand connaisseur de la pensée de la Perse ancienne, du mazdéisme, du zoroastrisme, qui était, lui, une lumière, véritablement. Et tout se passe comme si, c'est ma conviction, c'était en réalité Ignaz von Born qui avait dicté, qui avait guidé en tout cas la rédaction du livret de la Flûte enchantée, idée auquel participait Mozart et peut-être Schikaneder qui a écrit, qui a prêté sa plume, mais ça vient en tout cas de von Born et de Mozart. Je crois qu'on ne peut pas se tromper. Et je suis très triste parce que le malheureux von Born est mort 2 mois avant la première exécution de la Flûte enchantée et il ne l'a pas vu ni entendu. Donc, dans tout cela, il y a également, dans toutes ces idées, je vais venir maintenant à des exemples musicaux précis, bien entendu, rassurez-vous, il y a dans tout cela un appel à la tolérance, à la clémence, au pardon, à la mansuétude, qui sont des idées assez nouvelles à l'époque. Et ça, on va entendre ça dans tous les opéras. Donc, il est important de le rappeler, parce que la clémence ou le pardon, ça n'est pas un artifice dramatique parmi d'autres, c'est parfois ce vers quoi converge toute la dramaturgie et ce pardon, cette mansuétude sont l'aboutissement de l'œuvre et interviennent comme outil non seulement du dénouement, mais de ce que les Grecs appelaient une catharsis, c'est-à-dire la purification des passions, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire l'accès à, non pas un happy end, qui n'est pas en soi dramatiquement intéressant, mais en un épanouissement de l'être humain. c'est essentiel et c'est exactement ce que Mozart va faire. J'ajoute que cette tolérance, tous les philosophes de toute l'Europe l'appellent de leur vœu. Vous savez que, je fais un tout petit peu d'histoire de France, après toutes les guerres de religion qui ont secoué l'Europe au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle, on était arrivé à une tolérance de facto, même si elle n'était pas dans les écrits, dans les lois organiques des États, mais on fermait les yeux sur un certain nombre de choses. Vous êtes catholique dans un pays luthérien, allez, soyez heureux. Alors qu'autrefois, il y avait, vous connaissez bien le principe cuius regio eius religio, c'est-à-dire tout citoyen doit observer la religion officielle du pays et qui détient les écoles, les hôpitaux, les cimetières, sans lesquels on n'a pas d'identité et on ne peut pas exister. C'est Henri IV qui était pour la succession, qui a été appelé à succéder à Henri III en France, et qui lui n'était pas catholique, il était calviniste, il était huguenot, et il a dû se convertir pour devenir roi de France. C'est là qu'il aurait dit « Paris vaut bien une messe ». Et il a donc promulgué un célèbre édit, l'édit de Nantes, 1598, qui donnait la possibilité aux protestants de vivre, d'avoir droit de citoyenneté dans le royaume de France, parce qu'il était lui-même un ancien protestant et peut-être était-il resté de cœur. Or, Louis XIV, presque un siècle après, et là, ça va nous ramener à Mozart, en 1685, l'année de la naissance de Bach, promulgue un honteux édit, l'édit de Fontainebleau, qui abroge les dispositions de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que désormais, on n'a plus le droit d'être protestant en France. Erreur politique fondamentale, parce que les protestants sont partis et qui détenaient une partie de l'économie et de la richesse du pays. Ils se sont exilés en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans des terres d'accueil. En plus que c'était une erreur, évidemment, philosophique et humaine. Et il a fallu un siècle entier pour que le petit-fils de l'arrière-petit-fils, vous voyez le nombre de générations de Louis XIV, qui s'appelait Louis XVI, promulgue l'édit de tolérance. 1787, l'année de Don Giovanni. 1787, pour qu'enfin on puisse dire et faire vivre que les gens ont droit d'exister libres et égaux en droit, quelle que soit leur religion. Et là, Mozart est complètement dans ce mouvement d'idées-là. Alors, ces idées nouvelles, j'évoquais à l'instant le pardon et la clémence. Là, c'est juste pour mémoire que j'évoque le pardon dans Idoménée, le pardon final, la clémence dans la clémence de Titus, les deux opéras italiens, les deux opéras seria qui balisent la grande période d'opéra de Mozart. Je note aussi d'ailleurs que dans tous les 22 opéras que Mozart a écrits, tous les opéras de jeunesse pour l'Italie, et puis les grands opéras viennois, Il n'y a pas un seul mort. Si, il y en a un. Le commendatore, le commandeur, tout à fait au début de Don Giovanni. Je n'en connais pas un seul autre. Donc, ce ne sont pas des drames où on se passe par le fil de l'épée, on s'empoisonne, on condamne à mort, on coupe les têtes, comme on va en voir dans Verdi, par exemple, tout le temps. Ou chez Wagner, où à la fin, on se demande comment ça va pouvoir continuer, tout le monde meurt. Ben oui, c'est un vrai problème. D'ailleurs, Wagner étant tout jeune, il avait 13 ans, il avait écrit une énorme tragédie, pas en musique, simplement un livret, plus fort que Shakespeare, parce que c'était prévu en 5 actes, et au bout de 4 actes, les 47 personnages étaient morts. Eh bien, chez Mozart, ils ne courent pas le risque parce qu'ils sont tous en vie jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est facile de s'échapper par la mort, si j'ose dire, mais en tout cas d'échapper à l'aboutissement logique d'un drame. Là, c'est la démission, on s'enfuit dans l'au-delà. Non, les personnages sont là jusqu'au bout, alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Pourquoi continuent-ils à vivre? Comment se fait-il qu'ils aient traversé toutes ces épreuves? À quoi va-t-on arriver? Là, est la question. C'est là que ça devient vraiment intéressant, un drame. Eh bien, il n'y a qu'un seul mort, qui est le commandeur au début de Don Juan, pour d'autres raisons qui sont presque d'ordre psychanalytique, mais sinon, on mène le drame jusqu'au bout. On mène la logique des personnages au-delà du conflit jusqu'au bout, au moment où il va falloir que surgisse quelque chose. C'est le pardon, c'est la clémence, c'est la catharsis. Mais alors, ce pardon, on va le retrouver, par exemple, dans l'enlèvement au sérail. Et alors là, je m'aperçois que ça n'est plus du tout un pardon. Vous rappelez la trame de l'enlèvement au sérail, un jeune homme, Belmonte, va à la recherche de sa fiancée, Constance, qui a été victime d'un rapt, enfin en tout cas, qui est enfermée, la prisonnière d'un pacha, Selim Bassa. Et alors, il arrive et par divers subterfuges, il organise avec son valet et la petite amie de celui-ci l'enlèvement de Constance hors du sérail parce que le pacha veut ou bien épouser sa fiancée à lui ou bien lui faire trancher la tête, le cou. Et il organise cet enlèvement qui rate. Et là, c'est effrayant, il est pris au moment où ils s'en vont. Tous, ils sont pris en flagrant délit par le gardien du harem, lequel pousse des cris violents de victoire. Ça y est, je les tiens enfin. Et ils savent qu'ils vont évidemment tous périr. La vengeance du pacha va être terrible. Et il y a un dénouement. Et le dénouement est absolument extraordinaire. Vous savez aussi que c'est un rôle parlé, le pacha Selim, pour que la distance soit encore plus grande par rapport à la musique. Et à la fin, le pacha Selim dit « Alors voilà, on vous a pris en flagrant délit, eh bien, j'aimerais pas être à votre place. Vous savez ce qui vous attend ?»« Oui, Seigneur. » Et il se retire. Et là, ils se disent « Adieu !» avant de subir le châtiment suprême. Et revient le pacha Selim qui dit « Voilà ce qui se passe. » Le jeune fiancé qui est venu, Belmonte, ah non, c'est même lui qui dit, vous savez, moi je suis le fils d'un seigneur très puissant en Espagne qui s'appelle un tel. Et le pacha dit, ah oui, très bien, eh bien, ça a été mon pire ennemi. Bon, eh bien, là, ils ne sont pas fiers du tout. Ça a été mon pire ennemi, il m'a fait prisonnier dans un combat naval, il m'a fait prisonnier, il m'a épargné la vie, mais à part ça, j'ai été dans des cachots, ça a été horrible, il a brisé ma vie. Et maintenant, je tiens entre mes mains le fils de mon pire ennemi. Mais quelle joie, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous montrer qu'on peut faire mieux que la vengeance, on peut pardonner. Et il donne une leçon. Lui, qui est un oriental, il donne une leçon aux occidentaux, ça c'est dans le contexte de l'orientalisme de cette époque, eh bien, il y a mieux que la vengeance, il y a le pardon. Et quand tu vas retourner dans ton pays, raconte ce que tu as vu et raconte ce que tu as vécu. C'est ma façon à moi de me venger. C'est magnifique. Ce faisant, le pacha Selim a surmonté deux choses. D'une part, son désir forcené pour Constance, qu'il voulait, il aurait pu d'ailleurs abuser d'elle. Lui, il avait tout le pouvoir. Et il a surmonté cette situation et le désir de se venger. Donc, il a parcouru un chemin initiatique. Cette aventure, elle a un sens profond. Elle a ce sens, c'est que l'être humain, c'est Nietzsche qui dira ça à la fin du XIXe siècle, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Eh bien, il s'est surmonté lui-même. Il a acquis une transcendance. Il est monté à un niveau de dignité de l'être humain. Là, on est dans l'idéal mozartien. En ça, Mozart est un fils des Lumières, comme on disait alors. Dans Così fan tutte, que vous connaissez aussi, cette abominable histoire. Je dirais même que c'est alors là l'œuvre anti-lumière, pour le coup, parce que les personnages sont des gens abjects, les six personnages. Ils sont odieux. Et on dit toujours, le librettiste d'Aponte a dit « Così fan tutte », ainsi font-elles toutes les femmes, mais les hommes sont pires encore. Il aurait dû dire « Così fan tutti », ça aurait été beaucoup plus juste. Car, vous connaissez l'histoire, poussé par un vieux philosophe sceptique, deux amoureux, fiancés, veulent éprouver la fidélité de leur fiancée et ils disparaissent. Ils font semblant de partir au combat, à la guerre, et ils reviennent travestis en albanais. Bon, c'est-à-dire encore une espèce de turquerie à la mode, avec des grandes moustaches, avec des costumes invraisemblables, ils portent des yatagans extraordinaires, et donc ils ne se font pas reconnaître, et ils miment toutes les situations possibles, font semblant de se trouver mal, que sais-je, pour forcer les jeunes filles éplorées par la disparition de leur fiancé, cette journée même-là, à s'intéresser à eux, et finalement à nouer une intrigue amoureuse. Mais chacun éprouve la fidélité de la fiancée de l'autre. Ça, c'est terrible. L'histoire a d'ailleurs, paraît-il, existé à Vienne. C'est un fait divers qui a servi de trame à Da Ponte. Et le plus terrible encore, c'est que finalement, et c'est la musique qui nous le dit, une fois qu'ils sont travestis, les faux couples, ils sont beaucoup mieux appariés que les vrais couples. C'est une horreur. C'est-à-dire que le travesti a révélé quelque chose que les gens ne savaient pas. Mais à la fin, il faut bien que ça se termine, ils vont enlever leurs fausses moustaches, se débarrasser de leur kimono, stupeur générale. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut se résigner. Il faut se résigner, au fond, à vivre avec la personne avec laquelle on n'était pas fait pour vivre. C'est effrayant, car la société le veut ainsi. Et qu'est-ce que veut dire le pardon ? Plus rien. C'est simplement une résignation, une démission. Et donc, en cela, je dirais que c'est une œuvre complètement opposée à l'esprit des Lumières. Mais c'est l'aboutissement d'un cheminement intérieur de Mozart, une espèce de destruction nucléaire de toutes les valeurs humaines, après quoi va surgir la lumière de la flûte enchantée. Il est allé au bout de l'enfer, au bout du tunnel, au bout de sa nuit intérieure, après quoi la lumière va jaillir solaire. Mais regardons les Noces de Figaro, qui est un petit peu antérieure. Vous vous rappelez le mariage de Figaro, qui est au service du comte Almaviva, qui a d'ailleurs, dans le Barbier de Séville, la pièce antérieure, aidé par subterfuge, le comte Almaviva a épousé Rosine, devenue la comtesse Almaviva, que le comte s'empresse de tromper outrageusement, et notamment en désirant et en poursuivant de ses assiduités la jeune fiancée qui doit se marier cet après-midi. Ça ne se fait pas. Et il veut, ou demain matin, et il veut en plus exercer ce que l'on appelait élégamment en latin, le jus prime noctis, c'est-à-dire le droit de cuissage, puisque ça, c'était le terme courant, c'est-à-dire que le seigneur a droit à une priorité dans le lit de la servante ou de quelqu'un de sur lequel il a autorité avant le fiancé. Et ça, c'est une pratique qui a existé, hélas, et qui était ignoble et que Beaumarchais et Mozart dénonce, bien sûr. Et donc, j'entends là la façon dont le Figaro parle au comte Almaviva, dont la petite Suzanne parle à sa maîtresse, la comtesse, dont le travesti va permettre le dénouement dans l'acte du jardin, dans le quatrième acte. Il y a là une hymne à l'égalité des êtres humains. Là, Mozart, fils des Lumières, est en train de détruire cette féodalité qu'il repousse complètement, non pas en faisant la révolution. Alors, on nous montre quelquefois les Noces de Figaro avec une émeute de paysans, avec des fourches qui viennent presque attaquer le comte. C'est pas ça du tout. La révolution, elle est dans les esprits, elle est dans les cœurs, en l'occurrence. Et puis, Don Giovanni, n'en parlons même pas, ça, c'est la liberté individuelle de l'être qui se détache complètement de toutes les contraintes sociales, c'est évident. Et quant à la flûte enchantée, on ne peut pas élever un plus bel hymne à la fraternité. L'œuvre maçonnique, qui est une sorte... C'est un conte de fées qui est greffé sur un rituel d'initiation maçonnique, et nous sommes dans une assemblée de sages du temple de d'Isis et d'Osiris. C'est une fraternité masculine, en l'occurrence, et ce sont des sortes de moines qui vivent fraternellement entre eux. Donc, si je résume ce que je dis, eh bien, l'enlèvement au sérail, Don Giovanni, c'est un hymne à la liberté, les Noces de Figaro à l'égalité, la Flûte enchantée à la fraternité. Et je retrouve cet idéal de la Révolution française, mais avant que la Révolution française ne le prononce, liberté, égalité, fraternité. En cela, il n'y a aucun doute, Mozart est bien un fils des Lumières. Et je voudrais maintenant regarder d'un petit peu plus près la Flûte enchantée, parce qu'on a une illustration très précise d'un humanisme mozartien, avec une notion nouvelle que je vais introduire, qui est la glorification de la femme. J'ai beaucoup parlé des hommes, on parle également dans la Flûte enchantée de cette fraternité de moines, en quelque sorte, qui sont des hommes, et on a souvent dit que la femme était reléguée à un rang d'être inférieur, dont à une certaine époque, des penseurs catholiques se demandaient si elle était dotée d'une âme. Hélas, ça a eu la vie longue, ce genre d'idée. Et Mozart aime trop l'être humain pour avoir un instant ce type d'idée en travers de la tête. Mozart, enfant, a surpris complètement son entourage, et les témoignages sont innombrables qu'il le raconte, par l'amour qu'il attendait des autres et par l'amour qu'il donnait aux autres. C'est un être qui, tout enfant, à 3 ans, à 4 ans, est toute empathie vers l'être humain. Il souffre avec les autres, il demande de l'amour aux autres. Toute sa vie sera ainsi faite. Et je disais que si le père de Wolfgang, Léopold, lui a appris tout, lui a donné sa culture, il lui a appris à vivre. Et il n'a jamais été un voyou, le divin loupard qu'on veut quelquefois nous représenter. Il savait se tenir, le Wolfgang Mozart. Il y a une chose qu'il n'a pas pu lui apprendre. Il lui a appris la musique aussi. C'est de gérer son porte-monnaie. Car il était tellement généreux que dès qu'il avait de l'argent, il en a gagné beaucoup, il dépensait plus qu'il n'avait, mais pas pour lui, pas pour son bien-être à lui. Il invitait des amis au restaurant, il faisait des fêtes, pas tant par goût de la fête, pour le goût d'être ensemble, de partager et de donner. Et on a une illustration de tout cela dans la Flûte enchantée, et d'abord de cet idéal de la dignité humaine. On va en entendre 2 extraits. Le premier, c'est l'arrivée de Tamino devant les 3 temples. Vous vous rappelez que la reine de la nuit a demandé au jeune prince Tamino de voler au secours de sa fille, qui est la prisonnière d'un abominable tyran, un bandit qui se cache là-bas, qui s'appelle Zarastro, et aussitôt, elle lui montre un portrait, et le brave Tamino, tout d'un coup, ne se sent plus, il tombe raide amoureux de la petite jeune fille qu'on lui montre sur un médaillon. Ça va très vite. En effet, il est un peu ridicule. Et non, l'amour n'a rien de ridicule, mais je veux dire que la situation dramatique, mais volontairement, parce que le cœur d'un autre être humain, quel qu'il soit, ça se conquiert, et ça se mérite. Et là, justement, on nous montre un Tamino qui est avec une midinette. Enfin, c'est un personnage banal. Il va falloir qu'il devienne un homme, précisément. Il est pour le moment n'importe qui. Il est monsieur tout le monde, quoique prince. Et il part à la conquête de cette jeune fille. Et il va arriver devant les 3 temples. Alors là, tous les symboles maçonniques sont réunis. Temple de la nature, temple de la raison, temple de la sagesse. Il va frapper, il est guidé par les 3 enfants de lumière, naturellement, et il arrive devant les portes. Il frappe à la première porte, de l'autre côté, il frappe à la 2e porte et enfin à la 3e porte. Et chaque fois, il entend un cœur mystérieux à l'intérieur du temple qui lui dit « Tsurik, en arrière, recule-toi, tu n'entreras pas ». Et il ne comprend pas pourquoi. Je suis là pour... Mon devoir, c'est de sauver cette Pamina. Alors, pourquoi? Et là apparaît un moine. C'est un mot qu'on ne peut pas traduire en français. Der Sprecher, on dit l'orateur, le parleur. C'est en quelque sorte un des frères de la fraternité, le porte-parole, en quelque sorte, de la communauté qui vit là. Et qui vient lui dire, mais qu'est-ce que tu viens chercher? Alors, il explique, mais enfin, il y a une jeune fille éplorée. Alors, je résume. Une jeune fille qui est malheureuse, qui a été enlevée par ce bandit. Ah bon ? Mais qui t'a dit ça ? Mais c'est une femme éplorée qui est morte de douleur et je suis là pour venir sauver cette jeune fille, l'arracher aux mains de ce tyran. Ah bon ? Mais qui t'a dit ça ? Écoutez bien. Et il répond, mais c'est sa mère, c'est une femme pleine de douleur. Et l'autre lui dit, mais comment ? Une femme t'a dit ça et tu la crois ? Mais tu sais bien qu'une femme... Ein Weib tut wenig, plaudert nicht, plaudert viel. C'est-à-dire, une femme, ça ne fait pas grand-chose et ça ne fait que bavarder. Attendez, attendez, justement. Et alors, l'observateur un petit peu distrait dit, voyez-vous, c'est lamentable, c'était un machiste, il méprise la femme. Mais pas du tout. Il faut écouter tout l'opéra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on va y venir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire, dans ton monde à toi, dans ton monde superficiel, tu tombes amoureux d'une fille que tu n'as jamais vue, simplement parce que tu as vu un médaillon et qu'elle a un petit nez mignon, et puis tu écoutes et tu penses que, en effet, une femme, c'est quelqu'un d'un être inférieur, qui ne fiche pas grand-chose de la journée et qui bavarde avec ses amis. Mais ce n'est pas ça du tout. Et on va te le montrer. Alors, non, ça, cette phrase-là, il ne la prononce pas. Mais c'est tout ce qui va se passer au deuxième acte. Et ça va être bouleversant. Et on va entendre très précisément pourquoi. Mais on va d'abord écouter simplement le moment où Tamino vient frapper aux trois portes, où il entend le cœur derrière qui dit « Retire-toi !» en arrière, et où il y a ce dialogue avec le porte-parole de la communauté. On l'écoute. Alors, Tamino est guidé par les trois enfants. Trois enfants, la pureté naturelle, l'innocence, guide Tamino dans les ténèbres.
Die Weisheitslehre dieser Knaben, sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der süßste Götter hier? Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen. Dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen, wo Tätigkeit wohnet und Müßigkeit weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und Feiger, böse nicht, Paminen retten.
Sauvez Pamina.
Paminen retten.
C'est mon devoir.
Ist mir Pflicht. Zurück, zurück, so wag ich hier mein Bett. Noch eine Tür, vielleicht find ich den Eingang hier.
Troisième temple, au centre. La sagesse.
bist du kühner Fremdling? Was suchst du hier im Heiligtum? Sinn von hohem Sinn. Allein, wie wirst du diese finden? Dich leitet Lieb und Tugend nicht. Bei Tod und Rache dich entzünden.
Nur Rache für den Bösewicht.
C'est un tyran.
Den wirst du wohl bei uns nicht finden.
Sarasso herrscht in diesen Gründen.
Oui, c'est bien Sarastro,
là. Tempel nicht.
Herrscht in Weisheitstempel.
Et c'est le temple de la sagesse.
Alles
willst du schon wieder gehen?
Tu veux déjà te retourner?
Ja, ich will gehen.
Näher mir, dich täuschet ein Betrug.
Sarastro wohnet hier, das ist mir schon genug.
Il suffit de savoir que c'est Sarastro qui est là.
Du lieben liebst, so rede, bleibe da. Sarastro hassest du.
Ich hasse ihn nicht.
Pourquoi détestes-tu Sarastro?
Gib mir deine Gründe an.
Ist ein Unmensch, ein Tyrann.
C'est un tyran.
Ist das, was du gesagt,
qui t'a dit ça?
Durch ein unglücklich Weib bewegt.
Une pauvre femme malheureuse.
Das Kram und jammer niederdrückt.
Et là, la phrase importante.
Ein Weib
Une femme.
Hat also dich berückt.
T'a dit ça?
Ein Weib tut wenig.
Tu ne fais pas grand chose. Bavard beaucoup. Et tu la crois.
Was du sagst, ist wahr.
Wo ist sie, die uns graut? Man opfert.
Il faut s'arrêter là, parce qu'on irait jusqu'à la fin de l'ouvrage, bien sûr, tellement c'est beau, mais on a assisté là à une sorte de rituel d'initiation à la maçonnerie. Le questionnaire, on est dans l'obscurité, et on essaie de se défaire des idées reçues, se préparer intérieurement à entendre de nouvelles idées qui vont apparaître, que le deuxième acte va développer, quand nous allons découvrir Sarastro, qui est un homme de lumière, alors que de l'autre côté, c'est la reine de la nuit. Et nous allons assister à une sorte de combat des ténèbres contre la lumière, qui est une des idées fondamentales de la maçonnerie, bien sûr, et que Goethe, par exemple, va développer. À propos de l'enlèvement au sérail, Goethe, maçon lui aussi, bien sûr, dira un peu plus tard, là, on assiste au combat des ténèbres contre la lumière. Et c'est une notion donc très importante et qui se développe tout au cours du deuxième acte avec cet être solaire qu'est Sarastro. Et au début du deuxième acte, nous sommes à l'intérieur du temple cette fois-ci, et Sarastro, le grand prêtre, est là avec toute sa communauté, et il explique son plan. On va accueillir ce jeune prince et l'initier parce que il est capable d'être initié. On va lui apprendre ce que c'est que la sagesse, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que la vérité, et ce que c'est qu'une femme. L'idéal féminin. Et alors, on va l'initier. Et alors, les prêtres, dans un cœur magnifique, lui disent, mais comment ? Puisque tu nous as dit que c'était un prince, initier un prince. Et Sarastro a cette phrase sublime, il est beaucoup plus qu'un prince, il est un être humain. Là, on est totalement dans l'idéal des Lumières, dans l'idéal mozartien. Alors, vous connaissez la suite. Après, Pamina va être amenée au suicide, qu'elle n'accomplira pas. Mais c'est son cheminement intérieur. C'est-à-dire que c'est ça, déjà son initiation à elle. Elle a été mise dans une situation telle qu'il n'y a pas d'autre issue que de se donner la mort. Et elle l'accepte. Et elle l'accepte. Donc, elle a fait ce cheminement intérieur qui est le cheminement de l'initiation, à renoncer à elle-même pour autre chose. Et tout est combiné de telle sorte que Tamino est à traverser les épreuves de l'eau et du feu. Il traverse les épreuves, et tout à fait à la fin de l'œuvre, et à ce moment-là, il a gagné, triomphe, et c'est la conclusion, l'épilogue. Mais regardons bien et écoutons bien ce qui se passe. Vous savez, il va traverser, il va prendre sa flûte, et il va traverser donc le feu et l'eau. Mais il y a quelqu'un qui le précède dans la traversée des épreuves. C'est Pamina. C'est la femme qui marche en avant. Là, ça n'est plus du tout une femme, ça ne fiche pas grand-chose et ça n'arrête pas de parler avec ses amis. Pas du tout. Là, c'est la femme avec un grand F. On est de l'autre côté. On est du côté de la sagesse, de la raison. Et c'est la femme qui est en avant, qui traverse avec un courage absolu, qui traverse les yeux bandés, je suppose, le feu, puis l'eau, et elle prend Tamino et elle marche devant Pamina, pendant que lui joue de sa flûte pour l'instrument magique pour traverser les épreuves. Donc Mozart elle a complètement retourné la situation, et ne disons pas qu'il était anti-féministe, c'est exactement le contraire, si on écoute bien l'œuvre, avec tout le texte, mot à mot. Alors on va écouter quand même la traversée des épreuves, c'est un si beau moment. On ne peut pas être anti-féministe quand on écrit une phrase pareille. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Qui va te guider. Elle est héroïque, cette femme. Grandiose. No! Première épreuve. Deuxième épreuve. Voilà, triomphe, ils ont en effet triomphé des épreuves. Et auparavant, le texte est passionnant, d'un bout à l'autre, ce solo de Pamina, elle lui a expliqué à Tamino, mais tu sais, la flûte que tu as, qui t'a été remise par mon père, par ma mère, je veux dire, c'est une traduction idiote de l'allemand Zauberflöte, ça ne veut pas du tout dire la flûte enchantée, ça veut dire la flûte qui provoque des enchantements. C'est la flûte magique. D'ailleurs, « magic flute », on dit en anglais, on a bien raison, elle n'est pas enchantée. Mais Pamina lui raconte, au moment décisif où il va prendre sa flûte pour traverser les épreuves, menée par Pamina, elle lui dit, mais tu sais, c'est mon père qui était le maître de Zarathustra, qui l'avait taillé par une nuit d'orage dans un arbre millénaire. Alors donc, il fait comprendre qu'elle est un produit de la nature, dans ce que la nature a de plus essentiel, de plus profond. C'est pas un hasard si un des trois temples est le temple de la nature. Et c'est ainsi, avec la musique la plus savante, la musique d'Orphée, en quelque sorte, à la flûte, on concilie la nature et la culture. Et l'art. De même que Tamino et Papageno sont la culture et la nature, et qui sont les deux faces d'un même être, bien entendu. Ça aussi, ça fait partie de l'idéal mozartien. Il réunit la nature et la culture comme il concilie la lumière et les ténèbres. Et c'est une idée qui n'a pas échappé au grand Goethe, et Goethe qui avait une admiration sans borne pour la musique de Mozart et pour la pensée de Mozart, a dit à propos de la flûte enchantée, il dit, au fond, c'est très bien que tout le grand public, on ne disait pas ainsi à l'époque, aime ça. C'est tellement beau. Mais aux initiés, bon, non, c'est un maçon qui parle, aux initiés n'échappera pas la valeur essentielle de cet ouvrage. Et il aimait tellement la flûte enchantée qu'il a envisagé et même commencé d'écrire une suite à la flûte enchantée. Et il a dit, mais maintenant, je ne peux pas, puisque Mozart est mort. S'il n'y a pas Mozart, on ne peut pas le faire. Mais il l'a fait à sa façon. Dans la mesure où, 30 ans après, il termine Faust, qu'il avait commencé très tôt, il y a un premier Faust, et puis il revient sur ce thème, il le développe, un deuxième Faust, une tragédie en 5 actes. Et donc, 18 000 ou 20 000 vers après le premier vers qu'il avait écrit dans sa jeunesse, alors qu'il a 80 ans, il termine enfin l'ouvrage. Et il termine en bouclant son œuvre de Faust avec l'image de la petite Marguerite que le Faust avait séduite, abandonnée et tuée. Et dans le cœur des pénitentes, au moment où Faust risque de mourir, mais il va être sauvé précisément par Marguerite, apparaît dans le ciel une cohorte de personnages angéliques, séraphiques et un cœur de pénitentes, parmi lesquels une pénitente jadis appelée Marguerite et qui vient recueillir l'âme de Faust. Donc il est rédimé par l'amour de Marguerite, il est rédimé par tout ce qui s'est déroulé au cours de cette énorme tragédie cosmique qu'est Faust. Et le dernier vers écrit par Goethe, pratiquement le dernier vers de Faust, dit ceci, « Das ewig weibliche zieht uns hinan », c'est l'éternel féminin qui nous attire vers les hauteurs. Eh bien, Mozart ne dit pas autre chose dans la flûte enchantée, et un grand génie universel comme Goethe l'a non seulement compris, mais c'est là la conclusion de son Faust. Et donc, on voit bien comment cet esprit des Lumières a été exalté par Mozart et comment ensuite il va y avoir toute une descendance que je voudrais évoquer quelques instants pour conclure, mais auparavant je vous suggère, un instant un peu moins grave, une petite illustration de ce que je viens de vous raconter en images. J'ai choisi quelques tableaux, quelques gravures pour récapituler un petit peu ce que nous avons dit. Quelques portraits aussi. Ça, c'est l'archevêque Colloredo, dont on nous dit que c'était un tyran et un bandit, lui aussi. Eh bien, Colloredo qui lisait « Ce n'est pas ce qui tient la main ». Encore, je ne suis pas sûr, ça semble être un livre religieux, mais qui lisait Rousseau et Voltaire, tout de même. Bon, lui, c'est Voltaire. Et Jean-Jacques Rousseau, on est bien d'accord. Alors, voici maintenant une loge maçonnique au XVIIIe siècle, avec tous les attributs au plafond, ici, la grande map monde, le compas, l'équerre, les maçons qui sont en train, non pas de refaire le monde ou de faire la révolution, mais d'achever la création divine. C'est une vision complètement spirituelle qu'ils ont. On achève, Dieu nous a livré un monde imparfait et c'est à nous, les frères maçons, disait-on au XVIIIe siècle, de participer à la création en menant la création divine à sa perfection ultime. Ça, c'est l'initiation d'un maître. C'est un ancien compagnon devenu maître. Vous voyez, il est couché par terre. Il a un questionnaire. Il est dans l'obscurité, exactement comme le questionnaire que subit Tamino devant les portes des trois temples. Ça se passe dans l'obscurité. Alors, rapidement, les attributs maçonniques, donc le compas, la règle, le collier avec le triangle, tout ça qui a été dans le quotidien de Mozart. Les signes de la mort, bien entendu, avec les outils du maçon. Et voilà une session d'une loge maçonnique qui est celle de Mozart, qui s'appelait « À l'espérance nouvellement couronnée ». Et alors, on voit ici là, un homme qui a les yeux bandés. Il y a certainement un rituel d'initiation. Et ici, Wolfgang Amadeus Mozart, avec ses frères. On se rapproche, un plan rapproché. Il est là, Mozart. Et encore plus près, le voici. Voici une lettre de Mozart écrite à son frère Pourberg, à qui il a emprunté beaucoup d'argent. C'est encore une demande d'argent. Vous voyez même le mot « crédit » écrit ici, et ici en français, et ici sa signature qu'on va regarder en gros plan maintenant, avec le frère et ici les trois points. C'était vraiment une pratique quotidienne, les trois points qui sont les symboles de l'appartenance à la maçonnerie. Alors, le grand ami Joseph Haydn, qui fait initier à la maçonnerie, et ensuite son père, tout ça en quelques mois de temps. Voici une cantate, un petit extrait, enfin un aria plutôt, spirituel, au nœud sacré, lien sacré de l'amitié, une œuvre maçonnique, bien sûr. Ici, c'est un frontispice d'une édition gravée, Die Maurerfreude, la joie du maçon, une cantate, et regardez bien, en bas, sens responsable principalement du livret de la flûte enchantée, et puis maintenant, quelques documents sur la flûte enchantée. Ici, le livret de la flûte enchantée, qui est édité dès, vous voyez en bas, 1791, alors qu'elle était représentée en septembre, donc fin septembre. Donc, immédiatement, on représente la flûte enchantée qui est ici appelée Grand Opéra. Elle a eu plusieurs noms. Voilà un projet de décor par Schinkel. Schinkel était un peu plus tardif, c'est dans les années 1810. Ici, alors c'est assez amusant, c'est à la création même. On voit les trois dames, et puis à gauche, Tamino, je disais le prince, la culture, l'autre, l'oiseleur Papageno, la nature, et il a coupé le serpent qui menaçait Tamino en trois morceaux, bien entendu. Ici, c'est l'arrivée de Sarastro, telle qu'on la voyait à l'époque, et vous voyez les trois temples, Vernunft, Weisheit, Natur, donc la raison, la sagesse, la nature. Alors il arrive, il y a des lions, parce que c'est toute une imagerie d'un orientalisme fictif, bien sûr. Ici encore un autre projet de Schinkel, très néoclassique, hein, Berlin 1810. Un autre projet de décor pour la flûte enchantée, ça c'était à Munich dès 1793. Le succès a été énorme. On a représenté la flûte enchantée partout dans l'Europe, immédiatement. Là, c'est le célèbre décor imaginé par Schinkel pour Berlin 1816, la voûte étoilée et puis la reine de la nuit qui apparaît sur son croissant. Il y a un certain nombre de signes maçonniques et je vous indique si... certains d'entre vous vont en Europe et à Berlin, qu'on a reconstitué les décors de Schinkel dans l'opéra Unter den Linden pour la flûte enchantée, qu'on la joue à notre époque, aujourd'hui, dans ces décors-là, et c'est très extraordinaire. Voici le Papageno, à la même époque, 1816, donc, il est couvert de plumes d'oiseaux, il a sa cage, il est oiseleur, et il tient sa flûte de Pan, qui est l'instrument naturel par excellence. Et il chante, vous le reconnaissez ici, le début, l'introduction de son air, manuscrit de Mozart, et la page 2, la page suivante de cet air, où vous voyez ici son entrée, évidemment c'est écrit en gothique ici, Der Vogelfänger bin ich, ja, bon, le célèbre air de Papageno qui commence ici. Un costume de Sarastro, toujours en 1816, dans le style néoclassique. Ici, le manuscrit du chœur des prêtres, au début du deuxième acte, où on voit « O Osiris und Osiris schenken ». Bon, le chœur, et dans lequel il va dire « c'est beaucoup plus qu'un prince, puisque c'est un homme ». Et alors, je disais que ça a été représenté un peu partout, et j'ai la chance d'avoir dans ma petite collection personnelle ce livret d'une œuvre qui s'appelle « Les mystères d'Isis » et qui n'est autre chose que la flûte enchantée de Mozart, opéra en quatre actes, alors qu'il n'y en a que deux, donc un arrangement représenté sur le théâtre de la République le 25 Thermidor de l'an 9, donc en 1801, en 9 de la République, paroles du citoyen Morel, musique de Mozart, arrangée par le citoyen Lacnit, il fallait quand même un petit peu arranger Mozart, voilà, avec des ballets, mais ça veut dire que la popularité a été telle que même sous le consulat, avant même l'Empire, on représente à Paris la flûte enchantée dans un arrangement, mais on la représente. Et puis pour conclure, le grand Goethe, qui est ici le très célèbre portrait de Tischbein, qui date de 1787, donc l'année de Don Giovanni, 4 ans avant la flûte enchantée. Beethoven, je vais y revenir tout de suite, avec Fidelio et le combat de la lumière, des ténèbres contre la lumière. Et deux portraits de Mozart, ce portrait très peu connu qui a été authentifié l'année dernière et qui se trouve à Berlin aujourd'hui. Mozart en 1790, un an avant la flûte enchantée. Et on va terminer par le plus beau, à mon avis, portrait de Mozart, ce portrait inachevé, fait par son beau-frère Lange et qui se trouve aujourd'hui à Salzbourg, au-dessus du piano de Mozart. Merci à la technique. Alors, pour conclure, je voudrais dire qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il advient de ces idées, notamment dans le domaine de l'opéra. Il y a donc une vision de la femme qui va perdurer, mais tout le temps dans le monde de l'opéra, à commencer par Fidelio, donc 15 ans, 20 ans après La Flûte enchantée, dans le livret utilisé par Beethoven, et qu'il a beaucoup retravaillé, il y a plusieurs versions de Fidelio, eh bien, ça s'appelle Léonore ou l'amour conjugal, et le héros, Florestan, est enfermé dans un cachot parce qu'il a osé manifester une liberté de pensée politique. On est après la Révolution, cette fois, et ça prend pour base un fait divers de la Révolution française, et il est enfermé au nom d'un arbitraire, et sa femme, son épouse légitime, parce que Beethoven, attention, on est très, très sourcilleux, l'honnête Beethoven, sur ces questions, sa femme, Léonore, eh bien, se travestit en homme, se fait employer par le geôlier de la prison, jusqu'à repérer l'endroit où est enfermé son mari, et à l'aide de stratagèmes et de beaucoup de chance, finit par délivrer son mari. Et c'est un hymne à la liberté, en même temps qu'une glorification de l'héroïsme féminin. Et puis on pourrait aller jusqu'à Wagner avec cette notion du sacrifice de la femme initiatrice, de la femme salvatrice. Dans tous les opéras de Wagner, c'est la femme qui est au-devant de l'homme. Donc, en cela, Mozart a été un peu prophète de notion nouvelle, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de concevoir un drame, et qui est un drame de l'être humain. Et je dirais pour conclure qu'il m'apparaît qu'en cela, Mozart est profondément moderne. De son temps, on représente des princes, des situations, je ne parle pas de l'opéra bouffe naturellement, mais dans l'opéra seria, on représente des personnages mythologiques qui n'ont pas toujours beaucoup d'épaisseur, et il n'y a pas cette dramaturgie. En cela, je dirais même que les héros de Mozart sont nos contemporains. Nous les rencontrons, ils sont nous-mêmes, avec leurs drames, avec tout ce qui fait l'épaisseur de la vie d'un être humain. Mozart est un des grands psychologues, finalement, peut-être, de l'histoire de l'humanité. Et ces personnages sont des êtres humains, sont des êtres d'aujourd'hui. Et je me demande, au fond, si l'immense succès de Mozart, planétaire, n'est pas aussi un peu dû au fait que nous nous reconnaissons dans ces personnages. Je suis un peu, j'ai en moi un petit peu de Tamino, un petit peu de Papageno, un peu de Belmonte, un peu peut-être des personnages les plus noirs, peut-être un peu Leporello, peut-être veule, servile, et intéressé par l'argent, tout ça, ce sont des composantes de l'être humain de cette époque, de toujours et d'aujourd'hui. C'est peut-être, je dirais au fond, Mozart, notre contemporain. Merci de votre patience. J'aimerais qu'on échange un petit peu et tenter de répondre à d'éventuelles curiosités, si vous le voulez bien.